VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Il est 11h en temps universel. Bonjour à tous. Une autre attaque d'un camp de la mission de l'ONU au Mali. L'attaque a eu lieu ce matin. Notre camp à Kidal a été attaqué par des terroristes. Nous avons riposté, mais deux casques bleus ont été tués. 30 autres blessés, a déclaré à l'AFP une source sécuritaire au sein de la MINUSMA. Confirmant l'information, un militaire guinéen de la MINUSMA a précisé à l'AFP que les casques bleus tués appartenaient à ce contingent. Le président sud-soudanais Salva Kiir a réinstallé comme vice-président son ennemi juré, Riek Machar, chef de la rébellion qui avait déjà occupé ce poste entre 2005 et 2013. Une avancée symbolique dans la mise en œuvre de l'accord de paix signé en août dernier. Cette annonce est une avancée politique, symbolique, je l'ai dit, qui prévoyait donc un cessez-le-feu et un mécanisme de partage du pouvoir pour mettre fin à 2 ans d'une guerre civile dévastatrice. Anne Alberson.
M. Machar avait déjà été le vice-président de M. Kiir entre 2005 et 2011, quand le Soudan du Sud n'était encore qu'une région semi-autonome au sein du Soudan, puis entre juillet 2011, après l'indépendance, et juillet 2013, quand il avait été démis de ses fonctions. C'est une bonne nouvelle parce que c'est un pas en avant dans l'application de l'accord de paix, a déclaré à l'AFP M. Machar, qui s'exprimait depuis l'Éthiopie. M. Machar n'a toujours pas mis les pieds à Djouba, la capitale du Soudan du Sud, depuis la signature de l'accord de paix le 26 août 2015. Cet accord n'a pas empêché les combats de se poursuivre et les deux camps s'accusent mutuellement de ne pas le respecter. Le conflit a débuté dans la capitale, Djouba, lorsque M. Kiir, un Dinka, a accusé son ancien vice-président, de l'ethnie Nuer, de fomenter un coup d'État. Devenu indépendant en juillet 2011, sur les ruines de décennies de conflits avec Khartoum, le Soudan du Sud a replongé dans la guerre le 15 décembre 2013, quand des combats ont éclaté au sein de l'armée nationale, minés par des dissensions politico-ethniques alimentées par la rivalité à la tête du régime entre M. Kiir et Machar.
Le premier tour de l'élection présidentielle au Bénin, prévu le 28 février, a été reporté au 6 mars. L'ensemble des cartes d'électeurs n'ayant pas été distribuées selon la Cour constitutionnelle béninoise, plusieurs candidats de l'opposition avaient réclamé ce report à cause de retards constatés dans la production et la distribution des cartes des 4,6 millions d'électeurs. Au total, 33 candidats sont en lice pour cette élection.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au Sénégal, le procureur du tribunal spécial africain a requis la prison à perpétuité pour Hissène Habré, ancien président tchadien. Le procureur spécial Mbacké Fall a réclamé une condamnation qui, selon lui, est à la hauteur des crimes. Depuis l'ouverture de son procès le 20 juillet 2015, M. Habré, qui a été amené de force devant la cour, est resté muet. Les plaidoiries doivent se terminer aujourd'hui. Le verdict prévu pour le mois de mai, la fin du mois. Écoutons la réaction de Maître François Serres, avocat d'Hissène Habré à Dakar.
La défense du président Habré a toujours clamé que c'était un procès inéquitable. On a prétendu créer une juridiction internationale qui viole tous les standards internationaux. On n'a pas appliqué un règlement de procédure internationale qui permettait aux avocats de la défense d'aller faire des enquêtes, par exemple au Tchad, comme ça s'est passé dans l'affaire Gbagbo devant la CPI, où les avocats du président Gbagbo sont allés en Côte d'Ivoire. Ma sécurité personnelle était en fait menacée au Tchad. Donc il n'y a pas eu d'enquête. Et en fait, on s'aperçoit que c'est une enquête qui a été totalement manipulée par les ONG, notamment Human Rights Watch. En plus, on a pu constater qu'il y avait eu des éléments qui ont corrompu le procès, puisque les juges d'instruction ont reçu des sommes d'argent de la part du régime du président Déby. Ce qui, normalement, comme vos auditeurs américains pourraient le comprendre, suffirait aux États-Unis à arrêter un procès. Le président Déby a contrôlé ce procès puisqu'il en a été le financier.
Maître François Serres, avocat d'Hissène Habré à Dakar. C'est à minuit que s'achève en République centrafricaine la campagne électorale pour le second tour des législatives et de la présidentielle prévue dimanche 14 février. La présidentielle mettra aux prises les anciens premiers ministres Anissé Georges Doléguéré et Faustin Archange Touadéra. Les conditions sont-elles réunies pour que les différents scrutins se déroulent de manière équitable et transparente? La réponse du porte-parole de l'Autorité nationale des élections, Julius Ruffin-Gouandé-Baba.
Nous avons pris toutes les précautions, tout le matériel a été déployé et les bulletins aussi sont déjà au niveau des centres de vote. Donc pour nous, tout est prêt. pour que le scrutin de dimanche se tienne dans de bonnes conditions.
Le Rwanda a fait part aujourd'hui de son intention de renvoyer les réfugiés burundais qui sont sur son sol vers d'autres pays. Kigali étant accusé d'ingérence dans les affaires du Burundi, plongé dans une grave crise politique depuis avril 2015. La semaine dernière, des experts de l'ONU avaient accusé le Rwanda de recruter et d'entraîner des réfugiés du Burundi voisin afin de renverser le président burundais Pierre Nkurunziza. Ces accusations ont été reprises mercredi par les États-Unis qui ont reproché au Rwanda de chercher à déstabiliser le Burundi en enrôlant des réfugiés burundais dans une opposition armée contre le régime du président burundais.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
En Afrique du Sud, le discours du président Jacob Zuma sur l'état de la nation a été interrompu pendant une heure hier par des députés de l'opposition radicale. Michel Joseph pour les précisions.
Ces députés ont quitté le Parlement en scandant des slogans anti-Zuma dans le genre « Zupta doit tomber », jeu de mots en référence au lien étroit entre Jacob Zuma et les Gupta, de richissime homme d'affaires d'origine indienne, soupçonné d'avoir une influence directe sur le pouvoir sud-africain. Et Julius Malema, le soi-disant enfant terrible du parti combattant de la liberté économique, a ignoré les rappels à l'ordre pour crier « Zuma ne mérite le respect de personne. Il nous a volé, il a corrompu l'économie de l'Afrique du Sud, il a transformé ce pays en blague. Nous ne le connaissons pas comme notre président. » Quelques heures avant le discours de M. Zuma, des échauffourées avaient éclaté entre quelques centaines de partisans de Malema et la police. Une accusation d'abus de biens sociaux, le scandale Nkandla, du nom de la résidence privée du président sud-africain, et les répercussions économiques catastrophiques du limogeage de deux ministres des Finances en décembre alimentent depuis des semaines une campagne « Zuma doit tomber ».
Et l'Organisation mondiale de la santé a affirmé aujourd'hui qu'elle devrait savoir d'ici 4 à 8 semaines si le virus Zika cause bien des microcéphalies et le syndrome Guillain-Barré, comme le soupçonnent déjà fortement les scientifiques. Lors d'une conférence de presse, la sous-directrice de l'OMS, le docteur Marie-Paul Kenny, a expliqué que les experts devraient avoir encore besoin de 4 à 8 semaines pour établir le rôle joué par le virus Zika dans l'apparition de microcéphalie chez des bébés nés de femmes contaminées et du syndrome neurologique Guillain-Barré chez les personnes piquées par le moustique porteur du virus. Les Nations Unies estiment dans un nouveau rapport que le changement climatique et le phénomène El Niño ont eu une forte influence sur les catastrophes naturelles en 2015. Ces extrêmes, selon ce document, ont à la fois affecté le nombre et l'intensité des sécheresses, inondations et autres catastrophes liées au climat dans le monde. Jacques Aristide.
2015 a été l'année de la sécheresse. C'est du moins ce qu'indiquent les données compilées par le CRED sur les tremblements de terre, sécheresses, inondations, cyclones et autres catastrophes naturelles mondiales. Debarati Guhasapir est directrice du CRED.
Plus de 50 millions de personnes sont désormais touchées. Cela va empirer en 2016. Nous allons faire face à une catastrophe humanitaire dans le courant de cette année et il y aura des flux migratoires.
Les sécheresses sont les catastrophes dont l'impact dure le plus longtemps sur le développement humain, d'après Guhasapir.
La sécheresse conduit à la malnutrition sévère chez les enfants en bas âge et la malnutrition sévère est la cause de décès chez ces enfants dans une période de 4 à 6 semaines.
Guhasapir affirme qu'il y avait des signes avant-coureurs de la catastrophe de 2011, mais les gouvernements, dit-elle, n'y ont pas porté attention. Un scénario que les pouvoirs publics ne devraient pas répéter, suggère la directrice du CRED, qui ajoute qu'il ne faudra plus attendre que les Nations Unies déclarent une situation de famine pour agir.
Merci Jacques Aristide. Les États-Unis et la Russie sont tombés d'accord sur une cessation des hostilités en Syrie dans un délai d'une semaine afin de relancer le processus de paix et de stopper l'exode de civils. Les deux pays et leurs principaux alliés ont aussi décidé un accès accru et immédiat de l'aide humanitaire aux civils en détresse. Par ailleurs, un groupe de travailleurs piloté par l'ONU va se réunir dès aujourd'hui même à Genève pour mettre en œuvre ces volets humanitaires et fera des comptes rendus hebdomadaires. Jean-Roger Billon à ce micro. Fin de ce journal. Le prochain, c'est dans 50 minutes en compagnie d'Henri Francisque. Pour ma part, je vous dis bon après-midi sur le continent.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.